C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Entrevue.
Jean-Luc Romero-Michel est le premier élu français à avoir déclaré sa séropositivité plus publiquement en 2002. Il a aussi été le premier politicien français à être victime d'un « outing » en 2000. Conseiller municipal du 12e arrondissement de Paris depuis 2014, également maire suppléant de Paris, Jean-Luc Romero-Michel est un militant pour les droits de la diversité sexuelle et de genre, pour les personnes vivant avec le VIH et du droit à mourir dans la dignité, un droit qui n'est toujours pas acquis dans l'Hexagone. Il est aussi très engagé dans le dossier du chemsex. J'ai rencontré Jean-Luc Romero-Michel lors de mon séjour à Paris l'été dernier et voici donc quelques segments de cet entretien.
Comment peut-on être politicien dans un monde où la politique est en crise de confiance? On ne croit plus les politiciens. Comment on navigue là-dedans? Comment navigues-tu là-dedans?
Comme tout le monde, difficilement, parce que quand tu as l'impression de donner beaucoup de ton temps, parce que quand tu fais de la politique, quand tu es élu, alors moi c'est vrai que j'ai un pied dans l'associatif et un pied dans la politique, mais quand tu es élu, tu consacres énormément de temps au détriment de ta vie personnelle. J'étais à Budapest pour la mairie, je rentre à 15h, à 15h30 je suis au Solidaise pour représenter la maire tout l'après-midi et le soir pour accueillir une artiste dans mon arrondissement. Et ça c'était une semaine normale, c'est-à-dire une semaine où je n'ai pas eu du tout de temps pour moi. Et c'est compliqué. Là, cette semaine, on a le Conseil de Paris. C'est de 9h à 21h. On continue quand même à y faire aussi quelques réunions importantes pendant ce Conseil. Tous les soirs, j'ai des dîners de travail. On vit assez mal le fait que les gens vous reprochent de qu'on sert à rien, etc. Moi, j'ai l'impression qu'on fait avancer des choses, mais qu'ils généralisent avec certains élus qui font pas leur boulot, qui sont corrompus, etc. Et qu'en fait, tous les élus payent pour ça. Et puis aussi parce que beaucoup n'ont plus vraiment de conviction. On fait de la politique comme on fait une carrière. Alors que c'est, pour moi, c'est pas une carrière. On fait pas une carrière politique. Et je vois de plus en plus de jeunes arriver. On pourrait les mettre à gauche, à droite. Ce serait presque la même chose. Ce qu'ils veulent, c'est être élus. Et je pense que le manque de conviction, surtout à un moment où il y a des populismes dans le monde entier, hein, vous n'êtes pas épargné, ni au Canada, évidemment avec les États-Unis, avec le terrible Donald Trump. Nous, en Europe, on n'est pas épargné avec Orban en Hongrie, avec une ministre d'extrême droite en Italie, avec un président d'extrême droite en Pologne. Je trouve que c'est là où il faudrait que les politiques revendiquent un peu plus des convictions et puis sachent défendre des valeurs, parce que je pense qu'on n'a pas les mêmes valeurs quand on est à l'extrême droite et populiste, même face à tous les autres partis, je dirais entre guillemets démocratiques. J'y placerais même les droites républicaines entre guillemets. Le problème, c'est que aujourd'hui, beaucoup de politiques en plus ont renoncé, donc je comprends que les gens soient désabusés.
J'aimerais amener la question en fait même encore plus proche de tes combats. Quels sont les défis d'être un élu ouvertement gay et ouvertement séropositif en 2025?
Alors, honnêtement, en France, même si ça a évolué plus lentement qu'au Canada, très clairement, moi, je me souviens les premières fois où je venais aux Fiertés, Montréal, etc., il y a très longtemps, où on voyait plein d'élus qui assumaient leur homosexualité, de lesbiennes, de trans, etc. Nous, ça a quand même mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Il y a à peu près une dizaine d'années où il y a quand même un certain nombre d'élus, et encore, pas beaucoup, qui parlent de leur homosexualité. Mais en tout cas, ça me paraît plus extrêmement compliqué en France. Je pense que les gens s'en fichent du moment que vous faites votre boulot. Par contre, la séropositivité, ça reste quelque chose de compliqué pour plusieurs raisons. D'abord, la première raison, c'est la maladie. Parler de la maladie, c'est extrêmement tabou. Si vous êtes un politique, vous devez paraître fort. Et être malade, c'est être faible. Ce qui est un paradoxe absolument hallucinant parce que chacun dans sa vie aujourd'hui peut vivre peut-être plus longtemps avec des accidents de la vie.
On n'a qu'à te regarder.
Voilà, voilà.
C'est clair que t'es pas faible.
Ouais, mais c'est cette vision-là qu'ont les gens. Et donc, très peu d'hommes politiques. Il y a eu le maire de Rouen récemment. Moi, j'étais avec lui en plus. On faisait une réunion sur le sida il y a 10 jours ensemble. Et je le félicitais d'avoir dit qu'il avait un cancer. Et il me disait, mais j'étais surpris de recevoir des centaines de courriers de gens qui me disaient merci. Je disais, bah oui, mais parce que tu as l'honnêteté, toi, en tant qu'élu, de le dire. Ça touche les gens parce que ça montre que parce que tu es élu, bah oui, tu vis la même chose. Tu vas mourir comme tout le monde et tu as des maladies comme tout le monde. Mais ici, c'est extrêmement impudique de le dire. Et puis, le VIH... au-delà du caractère de fait qu'il y a un tabou autour de la maladie en France, chez les politiques, il y a le tabou, évidemment, du VIH qui reste très stigmatisant, qui reste une maladie honteuse, un virus tabou. Et tout ça en 2025. D'ailleurs, c'est ça le grand paradoxe. C'est pas toi que je vais l'apprendre, mais les progrès médicaux ont été considérables. C'est pour ça qu'on est encore là aujourd'hui. Mais les progrès sociétaux ne sont pas à la hauteur des défis. Et la sérophobie est une réalité. Et être un élu, d'ailleurs, la preuve, hein, en France, je suis encore, ça fait, je l'ai dit en 2002, on est en 2025, ça fait 23 ans que j'ai dit que j'étais séropositif. Je connais d'autres élus qui le sont, mais qui ne veulent pas le dire. Quand je leur en parle en disant, allez-y, ça va aussi dédramatiser, ça va aider, mais ils sont terrorisés à cette idée-là. D'ailleurs, même en Europe, je n'en connais pas d'autres. Mm-hmm. Donc, c'est dire à quel point ça reste compliqué, alors que j'ai quand même l'impression que dans nos pays, même s'il faut faire attention au retour en arrière, etc. Mais qu'aujourd'hui, en tout cas, on peut... j'ai été 23 ans conseil régional, ça fait... j'ai été élu municipal en banlieue, ça fait presque 12 ans que je suis élu municipal à Paris. Franchement, je ne me souviens pas que j'ai... À part quelques homophobes qui peuvent vous insulter dans la rue ou des choses comme ça. Mais au contraire, moi, quand je suis dans les bureaux de vote, les gens viennent me saluer, me remercient pour mes combats. Donc je pense que sur l'homosexualité, ça a avancé. Par contre, sur le VIH... Le boulot, il est toujours là.
Je dis ça parce que moi, je te suis sur les réseaux sociaux. Ouais. Je vois tes publications et tu es très présent sur les réseaux sociaux. Mmh. Puis tu fais avancer ou du moins tu mets en évidence des causes, des sujets, des projets, notamment les causes trans et tout ça. Mmh. Et je vois aussi les commentaires. Ouais. C'est scabreux.
Encore, moi, je ne vois pas tout parce que, par exemple, sur Twitter, où maintenant je suis moins comme tout le monde, enfin sur X, parce qu'il n'y a plus que des fachos qui viennent mettre des commentaires. C'est peut-être ce qu'il faudra que je fasse. J'ai mis un bodyguard, enfin une application qui m'évite de voir les choses les pires. Mais quand j'étais à la Pride de Budapest, mais c'est horrible tout ce qu'on peut lire, ce que les gens peuvent écrire. Il n'y a pas si longtemps que ça m'a sidéré de voir cette haine. On inaugure, puisqu'on a fait un travail de mémoire ici autour des personnes LGBT et du sida, etc. Et on inaugure la plaque du premier bar gay de Paris qui a ouvert en 1978, qui s'appelait Le Village. On fait cette inauguration, mes collaborateurs me filment en train de faire mon discours et je mets ce discours sur TikTok. En quelques minutes, des dizaines de milliers, là, je crois qu'il a dépassé largement les 110 ou 120 000 vues. Et qu'est-ce qu'on se rend compte ? Des milliers de commentaires, mais quasiment que des trucs de haine, des menaces, notamment contre le lieu, avec des gens qui disent « on va venir avec une voiture bélier pour démolir cet endroit » et tout ça. Et j'étais sidéré quand même de cette haine. Je suis habitué, mais en quelques heures... alors, je ne sais pas si c'est l'algorithme de TikTok qui a fait ça, que de la haine.
Ouais.
Que de la haine.
Oui, j'ai vu ça.
Et pour moi, ça reste quelque chose d'incroyable parce que moi, je vois dans la rue, par exemple, beaucoup de gens me reconnaissent, je prends le métro, etc. J'ai quand même plutôt des gens qui viennent dire merci. Voilà, après, il y en a quelques-uns, je vois bien qu'ils me regardent de travers. Mais je ne suis pas tant insulté que ça. Par contre, sur ces réseaux sociaux où ils se croient totalement anonymes, les gens se permettent des choses. Et moi, je comprends que pour les jeunes, ce soit difficile. Tu sais, j'enseigne aussi dans une école de commerce qui s'appelle l'INSEC, où j'aime bien aller parce que c'est intéressant de toujours voir des jeunes de 20 ans, de comprendre et tout. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai des jeunes étudiants à moi qui viennent me voir en me disant, qui aiment bien mon parcours et tout. Ils me disent, vous savez, monsieur Romero, vous avez beaucoup de chance, vous. Votre jeunesse, tout ça, vous ne vivez pas ce que nous, on vit. Avec l'homophobie, la transphobie, etc. Alors, je les regarde, je dis, je sais que c'est difficile avec les réseaux sociaux, mais vous savez, moi, déjà, quand j'avais 20 ans, j'avais déjà mes amis qui mouraient du sida. Ouais. Hein, et on disait que c'était une punition divine. Donc, il n'y avait pas les réseaux sociaux, c'est vrai, mais je peux vous dire que quand vous aviez un problème, par exemple, vous alliez dans un lieu de drague, vous faisiez tabasser, bah, vous, si vous alliez au commissariat, ils vous tabassaient aussi. Ouais. Je dis, mais vous ne vous rendez pas compte qu'aujourd'hui, la société a quand même considérablement évolué. D'ailleurs, dans les années 80, en France, quand Le Monde, qui a toujours posé cette question pendant des années, demandait si vous avez des enfants homosexuels, est-ce que vous le toléreriez ? 80% des gens disaient non. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Mm-hmm. Donc, la société a progressivement, mais une partie de ces jeunes pensent que c'est pire qu'avant, parce que c'est vrai que ce fil de ces réseaux sociaux, qui aurait pu être le meilleur, devient dans bien des cas le pire, mais ça ne représente pas la réalité de la vraie société. Toi qui as écrit des tas de livres, qui fais des dédicaces, des choses, si tu fais un événement Facebook, tu vas avoir plein de gens qui t'annoncent qu'ils vont venir, puis tu te rends compte que tous ces gens-là ne viendront pas.
Ouais.
Donc on voit bien que du virtuel à la réalité, il se passe bien des choses, mais je comprends que ce soit dur pour les plus jeunes, mais en même temps, on ne peut pas dire que ni en France, ni au Canada, être homosexuel et être homosexuel en politique est plus difficile en 2025 qu'avant. Reste le VIH, oui, et là-dessus, bah, le travail, il faut qu'on continue inlassablement, comme tu le fais, comme j'essaie de le faire.
Je reviens parce que c'est quand même rassurant ce que tu dis. J'avais l'impression que les réseaux sociaux avaient empiré la situation, mais probablement qu'elles démontrent le côté le pire, mais ce n'est peut-être pas majoritaire. Est-ce qu'on peut attribuer ça aux réseaux sociaux seulement ou à la montée de ces politiciens populistes de l'ultra-droite, de l'extrême droite?
Bah, de toute façon, l'élection de Donald Trump, cette fois-ci, a donné lieu à une explosion notamment de transphobie absolument délirante dans le monde entier et à légitimer des politiques qui se disaient un peu plus modérées à tenir des propos. Et le prétexte, c'est les trans aujourd'hui. Mais moi, je le dis à ceux qui disent dans la communauté LGBTQIA+, oui, bah, les trans, bah non, les trans, c'est la même communauté que nous. Et ce qu'on fait aux trans, ça vous viendra aussi. Parce que ça se passe toujours comme ça. On voit d'ailleurs en Italie, on a l'extrême droite. Qu'est-ce que les premières mesures qu'a pris cette première ministre d'extrême droite? Ça a été d'enlever des droits aux couples de femmes lesbiennes. Voilà, c'est cette réalité-là. Et que les gays qui pensent qu'ils sont totalement épargnés et qui auraient une vision, je ne sais pas moi, particulière et totalement juste identitaire, oubliant que les autres lettres de notre acronyme, je pense qu'ils ont vraiment tort. Ils ont vraiment tort et on a un changement de climat, un changement de discours politique et une libération. Nous, en Europe, on était protégés quand même un peu par ça. Et puis en plus, on a quand même, nous, des lois qui pénalisent les propos homophobes. Donc c'est vrai qu'ils ne peuvent pas non plus dire les mêmes choses que ce que dit Trump. Ouais. Parce que sinon, on va devant les tribunaux. Et heureusement. Mais ça a libéré. On a eu une proposition de loi au Sénat sur les mineurs trans qui a été adoptée. Et on a régulièrement, en tout cas sur les trans, un discours qui est très inquiétant et qui est un discours mondial. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut serrer les coudes, parce que le progrès, il n'est pas linéaire. Hein. On peut avoir des retours en arrière.
C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève, avec Denis-Martin Chabot. Entrevue.
Ce qui se passe en Hongrie, qui est quand même un pays au sein de l'Europe, qui normalement ne peut pas interdire une manifestation pacifique pour des gens qui défendent des droits. Orban l'a fait, même si il a pris une claque parce qu'il y a eu 200 000 personnes, ce qui est inimaginable dans un pays de 9 millions d'habitants. On n'a jamais vu autant de personnes. Mais il a changé sa constitution pour interdire le mariage, pour interdire entre guillemets la propagande LGBT comme les Russes l'ont fait. Il copie tout ce que fait Poutine. Et ça, c'est en Europe. Donc je le dis, faisons attention, parce que dans nos pays, la contamination de ces dirigeants populistes, Trump, Orban, Erdogan en Turquie, Poutine, la situation en Russie, en Chine, enfin tous ces gens-là sont quand même des dirigeants qui prônent une homophobie. Je devrais dire LGBTQIA plus phobie, mais bon, je résume comme ça, d'État. d'État. Les personnes LGBTQIA+, du monde entier, ont intérêt de dépasser certaines de leurs différences pour travailler, travailler ensemble, parce que on le voit, quand on travaille ensemble, bah, ça fonctionne. Hein. Quand on a tous été solidaires de la Hongrie, eh ben, ça a donné toutes les villes d'Europe qui sont allées les soutenir, plus de 70 parlementaires européens, et puis des centaines de milliers de Hongrois qui ont résisté.
Si tu n'avais pas été outé, hein, on parle de cette expression, qu'on n'aurait pas, si on n'avait pas divulgué ton homosexualité contre ton gré, contre ton consentement, aurais-tu eu ce même engagement que tu as eu maintenant?
Bien sûr, parce que j'ai toujours été militant, toujours été aux marches. J'avais déjà créé Élus locaux contre le sida, mais c'est vrai que je n'avais pas dit officiellement « je suis homosexuel ». Et je devais le faire à ce moment-là, dans une interview au Monde qui était prévue, dans laquelle il y aurait eu des questions, plein de questions sur les questions de société en général. Et au milieu, j'aurais dit « oui, je suis homosexuel ».
Alors on a tiré le tapis sous
le pied. Et on m'a coupé l'herbe sous le pied. J'ai écrit mon premier livre qui s'appelait « On m'a volé ma vérité ». Et c'est un journaliste qui me voulait du mal, qui s'est très mal comporté et qui a fait que son article a été déposé, enfin en tout cas ce journal, qui était pourtant un journal gay, gratuit, etc., a été envoyé quasiment à tous les journalistes qui comptent. Et donc j'ai dû me défendre, ce qui était quand même un peu terrible. Moi qui a été au moment où j'allais faire mon coming out, je me suis retrouvé dans cette situation alors que j'avais rien à me reprocher. Et ça a été dans la pire des situations, parce que c'était le moment où on avait les débats sur le PACS en France, qui était extrêmement violent. Et il y avait ACT UP, le mouvement de lutte contre le sida, qui disait qu'il allait dénoncer un élu qui avait homosexuel qui avait participé aux manifs contre le PACS. Cet élu, qui est devenu ministre de la Culture après, ce n'était pas moi. Sauf que c'est sorti, beaucoup de gays qui ont fait l'amalgame, et j'ai reçu des tas de lettres d'insultes en disant « c'est une honte, vous allez dans les manifs et tout », alors que moi j'étais dans le collectif pour le PACS. Depuis le début, j'en étais membre, je faisais des réunions avec eux, etc. Je faisais des réunions en province et j'avais rien à me reprocher. Donc ça a été très violent parce que c'était extrêmement injuste et que c'était à moi, au moment où j'allais le dire. Je rappelle, on est quand même dans le contexte de avant l'année 2000, enfin dans les années 2000, dans un contexte où ici en France, il y avait juste Bertrand Delanoë qui venait de dire son homosexualité. Voilà, donc c'était pas aussi simple non plus que ça. Et j'allais le faire et on m'a coupé l'herbe sous le pied. Alors ça a changé quelque chose, c'est que en fait moi je voulais depuis le début ne pas parler de mon... Enfin si, j'en aurais parlé forcément, mais je voulais parler de ma séropositivité parce que je trouvais que c'était important, parce que je m'étais engagé très tôt dans la lutte contre le sida, très, très, très jeune, quand Lynn Renault a créé, la chanteuse Lynn Renault, très populaire en France, qui a fait une chanson qui s'appelle Ma cabane au Canada, avait créé les artistes contre le sida. Moi j'avais 19, 20 ans et je mettais sous enveloppe les invitations. J'étais proche de Lynn, dont je suis toujours rester proche, qui est une amie vraiment très très chère à moi, et donc j'étais très très engagé dans ces combats et je voulais dire ça. Et autour de moi, donc mon compagnon de l'époque était absolument opposé, il était séro négatif lui, il me dit oui moi je veux pas parce que ça veut dire qu'on va aussi me dire que je suis séro, ça me concerne, je veux pas que tu le fasses. Ma mère était terrorisée à cette idée là mon propre médecin qui était Willy Rosenbaum, qui est le co-découvreur du virus, me disait moi je pense que c'est t'as pas intérêt à dire ça. Et puis Sheila, qui est une chanteuse française, qui est la présidente d'honneur des élus locaux contre le sida que je préside, me disait aussi mais pourquoi t'as besoin de le dire publiquement. Et moi je leur disais mais attendez, je vais partout en disant que c'est pas un virus honteux, que c'est pas une maladie tabou, et en même temps je le dis pas moi-même. Je dis il y a un moment pour moi ça devient difficile, ça devient compliqué. Et donc il m'avait plus ou moins convaincu à ce moment-là, et puis il y a eu cet outing, et après je me suis dit, là, j'ai pas envie que demain, quelqu'un dise que je suis séropo à ma place. Parce que franchement, ce combat, je le porte depuis que je suis séropo, depuis que j'ai perdu tous mes amis du VIH, et j'aurais trouvé ça extrêmement violent, et donc c'est comme ça que, après, je l'ai dit, que j'étais, en 2002, que j'étais séropositif, et je pense que ça, je le regrette pas, et que ça m'a sûrement d'abord donner plus de crédibilité, dans ce combat que je menais, parce qu'au moins, quand je parle de choses, des traitements et tout, je sais ce que c'est, hein, parce que je les teste, que j'ai connu les pires choses comme les meilleures. Et donc, ça me donne une certaine crédibilité. Et ça, peut-être que ça a amplifié les choses, j'en sais rien. En tout cas, moi, je sais que le jour où j'ai appris que j'étais séropo, j'avais 27 ans, je savais que je ne ferais pas une carrière comme tout le monde. Parce qu'à cet âge-là, je ne pensais même pas que je connaîtrais mes 30 ans. Donc, si tu veux, je ne pouvais pas imaginer faire une carrière politique classique. Et je savais que forcément, je prendrais des engagements forts parce que j'étais dans une espèce d'urgence. Comme toutes les personnes qui, à cette époque-là, découvraient leur séropositivité parce qu'ils savaient qu'il n'y avait pas de traitement et que la plupart d'entre nous, nous mourions dans des conditions extrêmement, extrêmement difficiles. Donc, je pense que au-delà, cette révélation n'a pas été, moi, ce qui a changé ma vie, c'est ma séropositivité. Peut-être que si je n'avais pas été séropositif, j'aurais peut-être été un connard d'élu qui aurait pensé qu'à faire carrière, à avoir le plus d'argent possible, le plus de responsabilités, enfin d'honneur surtout.
J'ai difficulté à croire ça, Jean-Luc.
Ouais, ouais, mais peut-être, ouais, j'en sais rien.
J'en sais rien.
J'aurais peut-être été un sale type hein, qui ne pensait qu'en politique, j'en connais quelques-uns, quoi, qui pensent qu'à leur carrière, qui sont prêts à marcher sur tout le monde. Peut-être que j'aurais été comme ça. En tout cas, moi, je suis sûr que ce virus... Alors, c'est terrible, parce que je ne veux pas dire aux gens, surtout, vous ne vous infectez pas au VIH. Mais moi, ce virus, il m'a rendu meilleur. J'en suis persuadé. Et puis, il m'a permis sûrement... Tu vois, si demain, je meurs, qui peut, ce que je veux, c'est pas mourir dans la souffrance. Hein, je me suis assez battu pour le droit de mourir dans la dignité. Il m'arrive un accident, j'ai une crise cardiaque et tout. Mais je dis aux gens, mais ne pleurez pas. J'ai eu une super vie. Parce que j'ai vécu vraiment le moment présent. Ce qui est très difficile dans nos sociétés. C'est possible en Thaïlande, dans les pays bouddhistes, mais dans nos pays à nous, c'est très compliqué. On est toujours, voilà, toujours, il faut toujours anticiper, etc. Eh bien, grâce à ce virus, moi, j'ai toujours su qu'il fallait profiter du moment présent. Et donc, je n'ai aucun regret. J'ai fait tous les voyages que je voulais faire et je continue à en faire et j'en ferai tant que je pourrai encore parce que j'adore voyager. J'ai fait toutes les choses que j'aimais. Je ne me suis privé de rien. Donc, je n'ai pas de fortune personnelle parce que j'ai dépensé mon fric au fur et à mesure. Mais je n'ai aucun regret. Et ça, peut-être que si je n'avais pas eu ce virus, j'aurais fait comme beaucoup. Je n'ai pas d'appartement à Paris parce que je n'avais pu m'en acheter parce qu'il aurait fallu dès le départ que je le fasse. Mais... au final, j'ai pas de regret de ça parce que je ne me suis pas privé et j'ai vécu comme j'avais envie de vivre et j'ai peut-être plus fait attention aux gens que j'aimais autour de moi. Voilà, ce virus m'a rendu meilleur et je crois que c'est ça qui m'a changé, que cet outing, c'était un moment très désagréable parce que je trouvais que c'était très injuste, moi qui portais ces combats depuis toujours, de me retrouver dans cette situation d'accuser avec des gens, à l'époque, je n'étais pas très connu, de gens qui me découvraient, qui me prenaient pour une espèce de pédé honteux. Donc c'était dur, en plus qui se trompaient avec quelqu'un qui était allé à une manif homophobe, que ce que j'ai jamais fait de ma vie, évidemment, mais voilà, donc c'était un moment difficile de ma vie, c'est vrai, je le reconnais. Mais ce qui m'a vraiment fait changer, c'est le VIH. Et au final, je sais pas, 87 aujourd'hui, presque 40 ans plus tard.
39 ans, ouais.
30, je me dis que ce virus, vraiment, il m'a aidé à vivre mieux.
Tu portes aussi le combat du chemsex.
Ouais.
Alors, pourquoi le chemsex, c'est quelque chose qui t'interpelle?
Alors bon,
tout
le monde pense que c'est quand même que après la mort de mon mari Christophe, qui est mort au cours d'une soirée chemsex, que je me suis engagé, mais mon engagement est préalable. Il s'est juste vraiment extrêmement renforcé après, puisque j'avais conscience de ce qui se passait, que j'ai été un des premiers élus à m'intéresser à la question. Qu'Élus locaux contre le sida, qui est une association que je préside, a été aussi une des premières associations à sensibiliser sur la question. Et puis m'arrive en mai 2018, ce drame où mon mari meurt au cours d'une séance de chemsex et dans lequel je me suis dit, mais moi, j'ai pas envie qu'il y ait d'autres Christophe qui meurent, quoi. Et il faut qu'on se bouge et personne n'en parle. C'est un sujet tabou dans la politique. Et j'avais un peu l'impression qu'on était comme au début des années sida parce qu'on croyait que ça touchait que les gays.
Personne... les gays qui s'envoyaient en l'air. Hein,
voilà. Et ouais. Que donc personne s'y intéressait. Il faut quand même savoir qu'en France, il a fallu attendre 1987 pour que Mitterrand dise le mot sida. Et que c'est un peu grâce à Chirac qu'on a eu enfin en 87 une année grande cause nationale, qu'on a enfin permis la vente libre des seringues qui était interdite jusqu'en 87, donc t'imagines l'épidémie qu'on a eue chez les usagers de drogue jusqu'à cette époque-là. La publicité sur les préservatifs était aussi complètement interdite, c'est complètement aberrant. Et j'avais un peu cette impression-là. Aujourd'hui, en France, et je vois globalement dans le monde, parce que moi, quand j'étais à Budapest, là, récemment, on a eu une réunion avec tous les élus des grandes villes européennes. Et je me suis rendu compte que Paris, avec un peu Amsterdam, est une des rares villes à avoir un plan stratégique sur le chemsex. Quand j'étais à la Montréal, ça a peut-être changé depuis, j'avais vu la municipalité. À New York, pareil. Ils soutiennent des assos qui font un peu du travail, mais les mairies ne sont pas vraiment impliquées dans un problème dans lequel j'estime qu'elles sont là parce qu'elles peuvent jouer le rôle de coordination. Nous, c'est ce qu'on fait à Paris avec un comité stratégique où il y a les associations, les institutions sanitaires, l'enseignement, etc., le corps médical, les centres de santé sexuelle. Et on essaye de travailler ensemble, de mieux se coordonner. On est la seule ville au monde à avoir sur le site officiel de la mairie une cartographie qui permet à une personne qui pratique le chemsex de savoir où aller tester ses produits, où aller chercher du matériel d'injection, parce que de plus en plus slam, comme on dit, oui, c'est-à-dire se l'injecte, pour aller dans des groupes de parole s'ils ont besoin de parler, ou pour aller se faire soigner s'ils ont envie de se sortir de cette addiction. D'accord. Et nous, on a ça, vous allez sur le site de la mairie, en plus il vient d'être étendu au département de la Seine-Saint-Denis, au nord de Paris. Et je crois que c'est la seule, quand j'en parle à mes collègues des autres pays, je viens d'en avoir plein, ils disent « Ah bon, vous avez mis ça ?» Et c'est sur le site, je dis « Bah oui, est-ce que c'est notre rôle aussi de donner l'information sans stigmatisation ?» Parce que la stigmatisation ne marche pas.
On est dans la réduction des méfaits, finalement.
Nous, on appelle ça ici en France la réduction des risques.
Donc, oui, il y avait beaucoup, beaucoup à dire avec Jean-Luc Romero-Michel. Je promets qu'on va proposer d'autres extraits de ce long entretien avec lui à l'occasion d'autres épisodes de L'heure où l'arc-en-ciel se lève. Après la pause, ça sera donc la chronique santé aux petits soins avec Gengis Grenier. On va parler de la famille comme source de stress pour les personnes vivantes, les personnes de la communauté de la diversité sexuelle et de genre. Et puis, on va parler des mangas queer côté geek avec Philippe Aubert, côté.